Nous sommes le 16 mars, nous sommes à la Servette contre le racisme, c'est ici à la paroisse de la Servette qui se situe au 55 rue de la Servette. Et nous sommes en compagnie de Oumar, bienvenue à toi Oumar.
Merci.
Alors Oumar, tu fais partie du groupe SIDA Genève, tu vas nous en dire plus, hein, quelle est cette organisation et qu'est-ce que tu y fais. Et puis bon, je pense qu'on va directement commencer comme ça. Voudrais-tu te présenter et nous dire que fais-tu au sein de l'association du groupe SIDA Genève?
Merci, je m'appelle Oumar Nian, je suis chargé de projet au groupe SIDA Genève, je suis sociologue de formation, ça fait 15 ans que je suis au groupe SIDA Genève, c'est une association qui dépend du canton et puis qui existe depuis 1989.
D'accord, et alors quelles sont ces aspirations, qui fait-on au groupe SIDA Genève?
Alors au groupe SIDA Genève, moi ce que j'ai fait de manière générale c'est de l'accompagnement psychosocial et de la prévention. Psychosocial, c'est être en contact avec les personnes séropositives et leur famille, pour les accompagner donc, pour qu'ils puissent mieux vivre la maladie et puis répondre à leur inquiétude sur le plan sociétal et sur le plan donc, des relations humaines avec la société humaine en général. Mais au groupe sur la Genève, c'est beaucoup plus large que ça. On a quatre domaines particulièrement. Donc, c'est la prévention, aussi bien donc, en prenant compte donc, tout ce qui est lié à la migration, ce qui est lié aux orientations sexuelles et la prévention tout public. Et puis il y a le vivre avec, c'est l'accompagnement psychosocial des personnes séropositives et de leur famille. Il y a le domaine juridique où on a des juristes et des avocats qui permet donc de faire de la plaidoirie et puis de lutter contre la discrimination du manière générale, aussi bien à l'emploi, mais aussi de la vie tous les jours. Et puis on a un autre domaine qui est le domaine de la santé, où un médecin traitant avec des infirmières, c'est pour faire des tests de proximité, mais aussi le suivi médical des personnes vulnérables, on va dire.
Ah ah, des personnes. Alors quelles sont-elles ces personnes vulnérables justement?
Alors, la vulnérabilité peut prendre plusieurs tournures. Nous prenons en compte ceux qui n'arrivent pas à avoir une assurance maladie, comme personne vulnérable.
J'ai compris.
Et puis ceux qui sont sans papier, et puis ou bien ceux qui ont des permis donc pas très rassurants.
Précaires, voilà, un petit peu, voilà, d'accord. Voilà. Ouais, okay. Est-ce que la migration, est-ce que dans les populations en migration, en exil, on observe que cette problématique est plus présente que dans des populations sédentarisées?
Alors c'est vrai, nous, ce qui nous intéresse en tant que dans la migration, c'est les migrants qui viennent des pays à très haute prévalence. C'est les pays donc subsahariens, donc Afrique noire, l'Asie du Sud-Est donc, et d'Amérique, particulièrement. Et puis étant que nous, on ne s'arrête pas sur le VIH, on fait aussi les hépatites. On fait aussi donc les infections sexuellement transmissibles et on a une approche globale de la santé sur l'individu. Ça c'est important. Du coup, on ne peut pas se focaliser sur la dimension donc géographique, mais juste dans la migration avec tout ce qui est comme déterminant de la santé.
Oui, oui. Quelles sont les populations touchées que vous observez, en tout cas empiriquement que vous touchez au groupe SIDA Genève, et ces populations ont-elles changé au travers des âges? Parce que tu as dit que ça faisait déjà 15 ans que toi tu étais présent, en plus sociologue de formation, on va en profiter. Est-ce que ces populations changent?
Ben, ça a beaucoup évolué, hein. Ça a beaucoup évolué, dans le sens que pendant longtemps, le VIH touchait particulièrement les travailleurs de sexe, et puis les gens qui s'injectaient des drogues, et la population générale est donc à orientation homosexuelle. Et puis, depuis qu'il y a l'introduction donc, des quatre piliers par rapport à la toxicomanie et qu'il y a une grande migration des gens qui viennent des pays à très haute prévalence de VIH, ça a changé donc la donne. Et du coup, on a plus de personnes qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud-Est, mais aussi donc l'épidémie touche les gays, les homosexuels, donc les gens qui ont des relations sexuelles avec les hommes.
D'accord.
Nous, on les appelle les MSM, donc Men Having Sex with Men, ou HSM, donc les hommes qui ont des sexes avec les hommes, dans le sens que ça englobe non seulement les homosexuels reconnus, mais aussi des gens qui se disent hétérosexuels ou bisexuels qui ont des pratiques homosexuelles à un moment donné de leur vie.
D'accord, mais sans éventuellement l'énoncer, c'est ça?
Tout à fait, voilà.
J'ai compris.
C'est typiquement identitaire, hein, donc par rapport à ça.
Tout à fait. J'aurais une question qui contient deux volets. C'est qu'en est-il des traitements ? Est-ce que là aussi on observe une évolution, j'espère, vers le mieux ? Parce qu'on se souvient effectivement de la ZT, on se souvient de la trithérapie avec de très nombreux médicaments. Est-ce que ça change un petit peu, ça évolue ? Et puis, qu'en est-il des attitudes des gens par rapport à la maladie ? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a entendu que certaines personnes se protégeaient moins en disant « oui, mais finalement maintenant, ça va mieux ». Est-ce qu'on peut vraiment là tirer la sonnette d'alarme et dire « non, attention, cette maladie existe, elle est bien là, il faut s'en prémunir ».
Alors, pour la première question, ce qu'il faut noter, il y a une très grosse évolution de traitement. Et puis, il y a moins d'effets secondaires. Parce que le début de traitement tel qu'on le connaît, la thérapie, c'est en 96, hein, ça a commencé. Oui. Mais ça a beaucoup évolué parce qu'il fallait aller vite trouver un traitement aux personnes. Et du coup, on n'avait pas eu assez de recul pour les effets secondaires. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On a donc des traitements qui font moins d'effets secondaires. On a appris avec le temps. Et puis, la grande nouveauté, c'est que depuis 10 ans, on sait qu'une personne séropositive qui est traitée et qui devient indétectable. Indétectable, ça veut dire qu'il n'a plus de virus dans le sang ni dans le liquide sexuel, ne contamine plus. Et puis, même dans les relations sociales non protégées. Et puis, ici en Suisse, c'est valable pour les autres pays occidentaux, depuis 2000, on n'a pas eu de contamination verticale, c'est-à-dire de mère à l'enfant.
D'accord, c'est-à-dire que les mères qui ont le VIH arrivent à avoir des enfants sans que ceux-ci ne soient touchés.
Ok. C'est ça. D'accord. Et puis, elles arrivent à éliminer le virus de leur sang et pas de leur corps, d'imaginer, mais voilà. Et du coup, c'est à la naissance que l'enfant est en contact avec le virus. Et du moment où cette dame ne contamine plus, il n'y a plus besoin de faire un enfant, donc c'est le positif.
Parce que quand la charge virale est indétectable, la personne devient non contaminante.
Tout à fait, oui. Ah, en fait, ce qui se passe, donc, on dit indétectable dans le sens que à moins de 40 virus dans le sang,
oui,
le virus, il migre. Il va dans le cerveau et au niveau des articulations. Et puis, quand on a un contact sexuel, c'est pas là où on est. Et puis, c'est idem pour le sang. Il n'y a plus de virus dans le sang, ni dans le liquide sexuel.
Et donc
et du coup, voilà. La personne ne contamine plus.
J'ai compris. Alors ça, c'est concernant les traitements donc on observe. Tu veux rajouter des choses concernant le traitement ?
Tout à fait, oui, parce que en fait, c'est peu connu. Et il faut en parler, donc effectivement que ça sert à rien donc de discriminer les personnes séropositives dans les rencontres, parce que nous, notre grand souci, c'est les personnes vivent très mal. Et puis ce qu'on appelle dans notre jargon la disabilité, c'est-à-dire à quel moment on dit dans les rencontres amoureuses qu'on est séropositif. On le dit avant, on le dit après, voilà. Alors qu'on sait très bien qu'ils ne contaminent plus.
Oui.
Ils ont une expérience de vie comme chez tout le monde.
D'accord.
Et puis, ils supportent mieux donc, le traitement. Ils doivent avoir une vie épanouie. Mais on sait bien que les rencontres amoureuses, la sexualité, a un sens dans l'évolution donc, de l'être humain. Donc,
bien sûr. C'est pas évident,
ouais. Ouais.
Et concernant. Pardon.
Pour le deuxième point.
Oui, donc, ouais. Voilà, les attitudes.
En fait, on a noté une très grande évolution sur le plan scientifique, hein, sur la pathologie en tant que telle. Mais par contre, sur le plan de la société sociétale, c'est pratiquement limite. C'est comme si les gens avaient oublié les années 80. Mais c'est vrai, parce que notre génération, c'est vrai qu'on ne meurt plus du sida, ce qui est vrai.
Donc,
ce qu'on a vu dans la mémoire collective à garder, c'est des personnes qui étaient à la dernière phase de l'évolution de la maladie. C'est-à-dire ce qu'on appelle la phase sida en tant que telle.
Tout à fait, le sida déclaré.
Voilà. Et puis on n'a plus ça. Et puis avec le temps, les gens pensent que, du moment où les gens ne meurent plus, les gens n'ont plus peur et puis ils pensent qu'on a trouvé une solution. Alors que c'est intact, on n'a pas de vaccin, même si donc le traitement fonctionne, on ne guérit pas du sida.
Ouais. Alors voilà, ça c'est la question évidemment que je suis obligé de poser. Selon toi, est-ce qu'on peut imaginer, on est au 21e siècle, que dans les 10, 20, 30 prochaines années, quelque chose de l'ordre d'un vaccin ou d'un soin ou d'une guérison pourrait être envisagé concernant le VIH ?
Enfin, c'est une question très personnelle. Hein, donc, moi, je suis si à la retenue hein, par rapport à un vaccin, que ce soit curatif ou préventif. Hein. Mais par contre, il y a un programme qui est déclenché par les Nations Unies, c'est ce qu'on appelle les 3x90. 90, c'est renvoi à 90%. Il part de l'idée que si 90% des personnes censées être testées le sont, si 90% des personnes aient un traitement,
oui.
Si 90% de ces gens qui sont sous traitement deviennent indétectables,
oui.
Et puis d'ici 2020-2030, on peut penser avoir une génération sans transmission VIH-SIDA. C'est éradiquer le VIH sans guérison.
Oui, tout à fait.
Donc, moi, je suis mathématiquement parlant, c'est possible.
C'est possible. Ouais, ouais.
Mais on ne sait pas ce que ça va donner à long terme parce que il faut acheter les médicaments. Ça coûte cher. On parle de l'ordre de 400 millions de dollars par an dans l'année pour tout le monde entier. Voilà.
Alors voilà, ça c'est également un problème. L'accès aux médicaments, est-ce que ça c'est un problème que vous rencontrez au groupe SIDA Genève ou c'est vraiment plus dans des pays malheureusement qui... Voilà.
Ouais, parce qu'effectivement en Suisse... les traitements sont pris en charge par la LAMAL. Hein.
D'accord.
Voilà, donc c'est l'assurance
de base.
Tout le monde, voilà.
Okay.
Là, et c'est dans le reste du monde où le bas blesse. Quoi.
Ouais.
Et puis, c'est vrai qu'il y a 60% des personnes séropositives dans le monde qui ont accès au traitement. Mais on fait quoi avec le reste?
Eh oui, c'est ça. Oui, donc ça reste un gros problème de santé publique.
Et puis, je vous ai parlé donc, des 3x90 des Nations Unies. Mm. Je sais que dans les pays occidentaux, ils vont atteindre donc, ce quota. Mais ça va accentuer davantage le regard des gens sur le VIH. Voilà, c'est guéri, c'est réglé. Alors dans le reste du monde, ils sont encore dans les années 80.
C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai, comme tu dis tout à l'heure, pour nous, on se souvient effectivement encore des années 80 où à un moment donné, on pensait même que les gens allaient tous mourir.
Attends.
Au moment donné, c'était vraiment, il y avait une angoisse terrible hein, au début du... Quand on parlait encore de gay pneumonia, même de cancer gay, enfin, il y avait des noms terribles hein, qui apparaissaient. Qu'en est-il des associations partenaires le groupe SIDA Genève, avec qui collabore-t-il ici à Genève? J'imagine avec la ville, mais également avec d'autres associations comme par exemple PVA ou des choses comme ça.
Tout à fait. On a ce qu'on appelle donc, le réseau VIH à Genève. Hein, donc, c'est toutes les associations qui travaillent avec des personnes qui sont censées avoir des personnes séropositives. Ça passe de l'hôpital général en passant par PVA, en passant par Première Ligne.
Première ligne, et puis, pour les addictions, oui.
Ouais, et des partenaires, des associations non communautaires, tout simplement.
Bien sûr.
Ouais, il faut parce que, et les églises, et les centres islamiques.
Ouais. Ouais,
donc on reste large parce qu'effectivement, que l'individu n'est pas seulement donc, séropositif tout court, mais aussi, il a une vie sociale. Et puis, il faut aller où vont les individus et puis parler avec les institutions qui sont censées les accueillir.
Absolument. Alors, qui vient vous voir? Est-ce que c'est des personnes qui ont dans leur cercle une personne qui a le VIH? Est-ce que c'est des personnes qui sont en recherche d'informations, par exemple des profs ou des personnes qui sont en prise avec des jeunes ou des adolescents ou quoi? Et également des personnes qui souhaitent se faire dépister. On peut venir au groupe SIDA Genève pour se faire dépister?
Tout à fait, oui. Et puis, on a le dépistage donc, de quatrième génération, c'est-à-dire qui combine aussi bien donc, les antigènes et les anticorps.
Oui.
Et puis, on a les résultats sur place.
Ah, sur place, directement.
Après 15 minutes, donc, on a le résultat. Et puis, on peut avoir un conseiller, en anglais, le conseil avant le test et après le test, parce qu'il faut vraiment donc, serrer la personne. Et ce qu'ils viennent chercher, qui viennent voir au groupe SIDA Genève, c'est monsieur et madame tout le monde.
Okay.
Donc, nous, par rapport aux personnes séropositives, c'est les gens les plus démunis, hein, qui ont moins de réseaux sociaux, qui viennent nous voir, donc voilà, discuter. Et puis, c'est aussi une personne qui travaille, qui a donc un réseau social, mais qui a un problème de discrimination au niveau du travail. Qui vient solliciter donc nos juristes.
Voilà. Oui.
Et puis, c'est aussi une personne qui veut commencer un couple, qui veut commencer une relation donc, avec une personne séropositive, qui vient se rassurer par rapport à nous, dans nos groupes de parole où c'est ouvert aux familles, mais aussi pour avoir des informations nécessaires pour pouvoir débuter une relation donc, durable.
Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, le point de vue juridique, hein, on a vu, vous avez ces quatre grands points, la prévention, le suivi et la santé, le vivre avec et l'accompagnement et cet aspect juridique. Est-ce que, penses-tu qu'il y a des personnes qui ont encore peur de franchir les portes du groupe SIDA Genève parce qu'elles ont peut-être peur d'être vues à proximité ou elles ont peur que ce soit divulgué, elles ont peur pour leur travail, pour leurs proches? Est-ce que c'est encore un sujet tabou ou est-ce que ça change, les lignes bougent un peu?
Mais en fait, c'est encore lourd, hein. Donc la mémoire collective, elle est tenace, hein. Et puis les gens n'ont pas toujours une meilleure vision donc, de la séropositivité, hein. Et puis pas plus tard qu'en 2018, c'est l'année où on a eu beaucoup de discrimination au niveau des milieux médicaux. Donc c'est toute la Suisse, hein. On a fait donc des tapages donc dans les médias pour en parler. En fait, moi, l'analyse que j'ai faite de cette situation, j'ai dit que c'est notre génération de soignants, parce que les médecins qu'on connaissait, ils ont connu les années 80, quand ils ont vu des malades et ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient même pas que le sida était d'origine virale ou
bactérienne. D'accord.
Donc, ouais, donc c'est vraiment, ils étaient dans l'inconnu et puis ça les a fait hyper mal. Eux, ils ont vécu ça. Mais la majeure partie des gens, ces gens-là sont à la retraite. Mm-hmm. Et puis les nouveaux médecins traitants ont l'âge de la séropositivité des pertes de leurs patients. Les patients qui ont 30 ans, 35 ans de séropositivité sont traités par des médecins qui ont 30 ans, 35 ans.
Mm-hmm. Ouais. Ouais.
Là, le regard n'est pas le même.
Bien sûr, il y a un changement.
Il y a un changement, et puis ça, on ne l'apprend pas à l'UNI. Hein.
Non.
C'est sur le terrain que ça se passe. Et puis, sur le plan humain aussi, les relations qu'on peut avoir avec les gens qui viennent en labo.
Concernant la prévention, alors, est-ce que le groupe SIDA Genève s'occupe également de prévention et de quelle manière il le fait? Est-ce que c'est en faisant des campagnes? Et si oui, est-ce qu'il y en a une actuellement qui a cours? Je sais qu'il y a eu récemment des capsules vidéo. C'est ça?
C'est ce que vous voyez ici. Donc, on est en pleine campagne. Donc,
d'accord.
C'est par rapport à la non-comptabilité, contamination donc, des personnes séropositives sous traitement.
D'accord.
Ça a fait beaucoup de bruit. Hein. Donc, il y a même des médecins qui ont intervenu. Ils disent qu'il ne fallait pas dire ça au grand public parce que ça peut jouer un mauvais tour à la prévention. Nous, on prend l'individu, la population, comme des gens de conscience, qui sont en mesure de discerner donc, ce qui va et ce qui ne va pas. Et puis, on donne l'information. C'est des bonnes nouvelles, on le donne. Chacun donc, prend, donc, digère comme il veut. Et puis, nous, on regarde plus les patients. Voilà, donc, quelles bonnes nouvelles accompagnent donc, leur sérologue. Parce que ce qui se passe, donc, c'est des gens qui vont vivre 80 ans, comme tout le monde.
Oui.
Donc, il faut les aider à mieux vieillir et à mieux vivre avec la maladie, cette maladie chronique. On le voit avec ceux qui ont le diabète ou l'hypertension, sont bien accompagnés. Ils vivent mieux. Alors que ça doit être la même chose pour le VIH-SIDA.
Il faudrait d'une certaine manière la normaliser, mais sans. Enfin, en gardant une alerte sur le fait de dire qu'il faut quand même, il faut se prémunir, se préserver,
voilà.
Etc. C'est délicat, c'est pas évident, j'imagine.
Non, parce que le sida a une autre identité par rapport aux autres maladies chroniques. Hein.
Comment ça se fait selon toi? C'est parce que ça touche à la sexualité? Parce que c'est ça?
Mais vous avez tout vu, hein. Ça touche à la sexualité. On est encore dans une société judéo-chrétienne où c'est la religion qui s'occupe de la sexualité. Comment les gens gèrent leur sexualité? Et puis ça reste, même si la majeure part des gens ne mènent pas la religion dans leur vie de tous les jours, mais elle est là, cette vision. Donc,
prégnante. Quel est le retour des gens quand vous les apostrophez, quand les personnes viennent à votre stand? Est-ce que tu sens qu'il y a quand même doucement une évolution et puis que les gens commencent à s'informer et à porter un regard différent sur la maladie?
En fait, ici, les gens viennent vers nous. Hein, donc, ça dit, c'est des gens qui ont envie de discuter.
Oui.
Et puis, nous, on a une ligne info. Ça dit que si les gens ont pris un risque, ils appellent sur la ligne pour dire, voilà, encore. Et c'est là qu'on voit que les gens sont angoissés. Que quand ils ont pris un risque, quand ils veulent s'informer, ils vont d'abord sur Internet. Et soit donc dans les chatrooms, c'est là où ils sont perdus. Hein, parce qu'il y a des tours sur Internet. Ils vont cibler donc ces recherches. Et là, ils appellent tout paniqué, dans le sens que voilà, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis c'est là où on ramène tout ce qui est lié à la prévention, donc tout court, et la prévention médicale aussi, donc ce qu'on appelle la PEP et la PrEP, donc ça c'est important d'en parler. Et puis de l'autotest, des bonnes nouvelles, voilà. Donc, et puis que les IST se soignent. Voilà, donc voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Absolument. Parce que les gens mélangent les deux souvent. Voilà.
Ouais, donc peut-être qu'il y a une infobésité, une trop grande information qui a produit de la confusion, peut-être, ou il faudrait, enfin, il y a des choses qu'il faut reprendre, en tout cas, mais, selon toi.
De toute façon, les gens sont très informés.
Ouais.
Donc, l'accès à l'information donc, est beaucoup plus plausible maintenant. Et puis, les gens s'informent dans les réseaux sociaux et c'est pas souvent là qu'il faut aller trouver la bonne information.
Ouais, on a tendance à peut-être utiliser des sources qui ne sont pas les meilleures, en tout cas. Je comprends. Alors, on arrive, Oumar, doucement à la fin de cet entretien, mais j'aurais encore voulu poser une ou deux questions, si tu as deux petites minutes encore.
Ouais.
Comment aider le groupe SIDA Genève ? De quoi auriez-vous besoin ? Est-ce que des bénévoles pourraient vous rejoindre ? Est-ce que vous êtes à la recherche toujours de fonds pour les campagnes ou de quoi ?
Alors, pour ce qui est des fonds, donc, on a toujours besoin de fonds, hein, parce qu'effectivement, les fonds, c'est le nerf de la guerre. Hein, donc, on a toujours. Parce que nous, au groupe SIDA Genève, c'est les personnes les plus démunies qui viennent nous voir. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas pris en charge par l'entourage familial, ceux qui sont isolés, ceux qui ont un problème de trouver un sens à leur vie. C'est cela qu'ils viennent nous voir.
Oui.
Et puis, nous aussi, on aimerait qu'on intervienne le plus souvent donc, dans la nouvelle génération. On a un programme pour les gens du cycle. Hein. Ils viennent au groupe SIDA Genève, ce qu'on appelle un programme regard croisé. Ils viennent voir des personnes séropositives qui font un témoignage, mais qui discutent. Ce n'est pas un témoignage, vous dites, vous tracez la trajectoire de vie, non. Ils discutent donc c'est quoi la maladie maintenant, ce qu'il faut voir chez une personne séropositive. Ça marche.
Ok.
Donc c'est une manière de récupérer donc la nouvelle génération. Alors que donc si on garde le contrat de prestation qu'une ligne avec l'État, c'est pas notre population cible. Hein.
J'ai compris.
Mais nous on a besoin de, parce que on n'a pas besoin donc d'avoir une population cible. La population cible c'est juste pour quantifier, pour justifier donc nos prestations. Mais il n'y a pas donc de population qu'il faut contenir à aider ou à informer, à avoir de la pédagogie pour l'évolution donc tous les jours. Parce que ce qu'il faut noter, parce que les enfants aussi, on a encore des jeunes adultes qui sont nés avec le VIH. Il faut que les camarades donc arrivent à comprendre c'est quoi donc être né avec le VIH. Comment être né avec le diabète, ça se comprend. Mais avec le VIH, c'est autre chose. Hein. Donc, voilà, alors qu'il faut.
Comme tu l'as dit, il y a une grosse charge émotionnelle, peut-être même de l'ordre de l'irrationnel qui accompagne. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes à la recherche quand même de bénévoles, de personnes qui pourraient vous rejoindre pour vous aider à tenir des stands
Tout à fait. Donc, ouais, on est ouvert aux bénévoles. On aimerait bien en avoir, parce que des bénévoles aussi qui amènent leur expertise en dehors donc, du VIH, juste la capacité d'accompagner les personnes et de. Les langues, nous aider donc à tenir les stands, donc voilà, donc, et puis donner sens à son temps libre.
Absolument, c'est peut-être une des meilleures raisons. De quelle manière est-ce qu'on vous contacte ? Y a-t-il un site internet avec un formulaire de contact, une adresse mail ?
Alors, on a le site internet groupesida.ch, donc sur Google, groupe SIDA, donc on tombe
facile,
dessus.
Ouais.
Et puis, on est dans les réseaux sociaux aussi, voilà. Donc, ouais,
d'accord. Les réseaux sociaux, ça change quelque chose pour vous ? Tu vois que là c'est quelque chose qui est.
Mais c'est là où on est plus visible, hein, par exemple nos actions. Donc, comme aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, on va aller donc, parler donc, du racisme donc, à la Servette, et puis voilà, donc on continue. Et puis les gens nous suivent par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le premier média d'information public, et puis voilà, on est obligé.
On est obligé, c'est ça. Alors on y va, des fois on y va comme ça. Ouais. Dernière chose, donc le site internet, sur le site il y a évidemment l'adresse de contact et tout. Et puis il y a les locaux, les personnes peuvent-elles venir directement au local à des heures d'ouverture, ce n'est pour dire bonjour j'ai besoin d'un conseil ou je suis dans le désarroi.
Mais tout à fait, parce que nous ça me fera plaisir, parce que rien ne vaut le contact, hein, le contact humain, parce que le téléphone c'est bon mais le contact. Alors nous on est à la rue du Grand Pré 9, c'est l'immeuble de Stronf au premier étage.
D'accord.
Et puis on est ouvert de 9h à 17h. Et puis notre ligne info donc, est accessible à tout le monde. Hein, donc.
Très bien. Oumar, je te remercie beaucoup.
C'est un plaisir.
Y aurait-il une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais souhaité répondre, ou pour aujourd'hui, on a fait un bon tour de la question, penses-tu ?
En fait, moi, je voulais donc tirer sur la sonnette d'alarme pour que les population sache qu'il y a beaucoup d'avancées scientifiques, mais sur le plan sociétal, on est encore à la traîne. Hein, donc que les gens donc, soient moins stressés par le VIH et puis que les gens aient l'information, ça permettra d'avoir une meilleure relation avec les personnes séropositives. Et puis, savoir que donc, les personnes séropositives sous traitement ne contaminent plus, même dans leur relation sexuelle, sans donc, protection.
C'est une excellente conclusion, Omar, et on invite les gens à vous rejoindre, à aller sur le site internet groupesida.ch, groupesidagenève.ch, et ou alors à se rendre directement chez vous pour justement vous poser des questions et aller chercher l'information là où on sait qu'elle est juste et qu'elle est fiable.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.